Quelle indignité.
Églantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est celle-là ? Qu'est-ce que c'est ?
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre ?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux. Merci.
Salut Charlie, bonsoir très chers auditeurs et auditrices. Ce jeudi, dans Place au débat, nous allons aborder un sujet qui est d'augure en cette période de l'année, le bac. Et oui, puisqu'en ce moment même, les premières et les terminales ont leurs épreuves du bac. Nous prendrons comme exemple le bac de français, mais nous allons aussi nous concentrer sur le bac en général. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Cora Livio, professeure de lettres. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Nous sommes ici dans le studio de Radio Alpa, mais également sur les réseaux sociaux où vous pouvez interagir, Charlie ?
Tout à fait, vous pouvez réagir et interagir sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Radio Alpa ou sur Instagram, c'est radio-8alpa. Et je précise que Madame Vio est professeure de lettres au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix au Mans.
Commençons donc sans plus tarder avec une question plutôt basique. Qu'est-ce que c'est le bac en 2023 ?
Alors, merci tout d'abord de m'avoir invitée. Je suis professeure de lettres. Donc moi, je pourrais vous parler de la partie lettres, même si je peux un petit peu élargir. En lettres, le bac consiste à expliquer un texte pour ce qui est du commentaire ou à faire une dissertation sur œuvre pour ce qui est de la partie dissertation. De nos jours, le bac, c'est le contrôle, le continu. Hein. Le bac a changé, vous devez le savoir, Églantine, puisque vous êtes au lycée, je crois.
Effectivement, oui.
Donc, pour la partie anticipée, le bac de français reste assez immuable. Ce sont les points de l'examen qui comptent pour le bac. Mais pour la majeure partie des épreuves, ce sont les notes du contrôle continu, en fait.
Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le français, c'est une épreuve anticipée. Mais est-ce que ça ne devrait pas plutôt être une épreuve finale ?
Ah, vous voulez dire une épreuve qu'on passerait en terminale ?
Oui, une épreuve, faire du bac de français, une épreuve au même titre que les autres, au même statut que les autres. Quoi.
C'est-à-dire qu'on y consacrerait 3 années au lieu de 2, ce qui semble une très bonne idée. Je ne sais pas si les élèves seraient du même avis.
Oui, j'imagine que ça dépend un peu du point de vue de chacun, élève ou prof.
Mais c'est vrai que... ça laisse peu de temps à la préparation des élèves pour des épreuves aussi ambitieuses et pour leur apporter un bagage littéraire qu'ils n'ont pas, malheureusement, en général.
Alors, on va continuer avec une question qui est un peu une question polémique. Est-ce que le bac est donné aujourd'hui ? On se rend compte que les sujets de 1980, par exemple, revêtent de notions étudiées beaucoup plus complexes que celles de 2022. C'est vrai dans les matières scientifiques en particulier, c'est une impression et un constat qui reste malgré tout général. Par conséquent, est-ce que le bac a toujours réellement ce rôle de barrière sélective qui sanctionne un niveau d'instruction assez haut ?
Eh bien, je dirais tout d'abord, ce n'est pas le but, puisque le but, c'est que tout un chacun obtienne son bac. Les études, finalement, ne commençant qu'après le bac. Donc, évidemment, elles n'ont pas, ce n'est pas une barrière élitiste, loin de là, évidemment. Néanmoins, pour ce qui est de la matière du français, avoir des résultats corrects aux épreuves de français, ce n'est pas si évident. On peut le voir cette année avec les sujets qui ont été donnés, hein, notamment le sujet de commentaire qui était un extrait de Diderot, critique d'art, et qui était particulièrement ardu. Pour autant, j'ai envie de dire que les jurys vont s'adapter hein, aux copies qui leur sont proposées. C'est le jeu du bac.
Mais alors, ça veut dire que la sélection se fait finalement plus à l'université et plus tellement au bac.
Bien sûr, bien sûr. Faire un lycée, c'est la fin des années obligatoires du collège et du lycée. C'est le début des grandes études, si on veut faire des grandes études. En tout cas, c'est comme un petit peu un reste de rite initiatique qui reste malgré tout, même si le contrôle continu a comment effriter cette image ?
Peut-être que le contrôle continu, effectivement, a effrité un peu cette image. Peut-être que cette nouvelle formule du bac, dont nous reparlerons un peu plus tard dans l'émission, n'a pas arrangé le cas avec cette formule des matières à la carte. Mais le bac étant un un examen qui date de 1809, donc tous les élèves passent, hein, quels que soient, qui sont en pro en général ou en technologique, ils passent le bac. Quels sont les changements que vous avez pu constater depuis votre propre passage du bac? Bref, quels sont les changements majeurs qu'il y a eu peut-être aussi au niveau des programmes en lien avec ces modifications et cette réforme du bac? Quels sont les changements majeurs que vous avez pu remarquer?
Alors, pour autant, je ne suis pas née au début du XXe siècle.
Non, on est bien d'accord.
Je suis née en 1973, j'ai passé mon bac en 1990.
Je ne pense pas que ce soit tellement différent, si ce n'est dernièrement les spécialités qui ont quelque peu perturbé, on va dire, les élèves et les familles. Moi, j'ai passé un bac littéraire, bien sûr, hein, un bac qu'on appelait à l'époque A2, qui était relativement dégradé, mais qui était la réunion de matières littéraires, littérature, philosophie. Alors après, vous dire si c'est vraiment différent, je pense que sur les épreuves de rédaction, d'organisation, d'idées, c'était à peu près similaire, mais pour tout dire, je n'étais pas une élève modèle.
D'accord. Mais alors au niveau des les programmes ont beaucoup évolué ou...
En français, pas tant que ça. Non, non.
Le
non.
Français, c'est une matière qui reste stable malgré tout.
Ah oui, les épreuves étaient les mêmes. Hein. On avait le choix entre un commentaire et une dissertation. La dissertation était plus large puisqu'on n'avait pas de dissertation sur œuvre. La dissertation portait sur la littérature en général, comme elle est devenue inabordable. Le ministère a choisi de la réduire à des œuvres étudiées en cours pour en faire comme une sorte de question de cours.
Ok.
Et au niveau de l'oral, il y a aussi eu des modifications.
Quasiment pas. Nous avions une liste de textes, bien sûr. On n'avait pas. En fait, on n'avait pas la question que l'examinateur allait poser sur le texte. Il l'a posé au dernier moment et on devait organiser le plan en fonction. Alors que désormais, les élèves expliquent le texte en fonction de leur plan préalable et de leur compréhension. Il y avait un petit peu plus de, on va dire, d'improvisation. Et il n'y avait pas de question de grammaire non plus. Et c'est vrai que la dernière partie, la présentation de l'œuvre, qui se fait désormais, n'existait pas. Et il s'agissait de questions de culture littéraire sur tout ce qui avait été abordé au programme. Mais cette modification est très récente, hein. Elle date de 3 ans. Hein.
Alors en français, les programmes n'ont apparemment pas trop évolué. Peut-être que toutes les matières n'en diraient pas tant. Je pense notamment aux matières scientifiques, comme je le disais tout à l'heure. Mais alors, est-ce que cette nouvelle formule du bac à la carte est judicieuse? Elle est souvent perçue comme un peu élitiste, car on redifférencie bien scientifique, littéraire, de telle façon à ce qu'on les place sur un piédestal assez différent. Et elle est aussi perçue comme très, voire trop spécialisante, alors que le secondaire a justement peut-être comme objectif de ni être spécialisante, ni être élitiste, dans la mesure où il se veut général plutôt au niveau des enseignements. Donc est-ce que justement cette nouvelle réforme du bac à la carte ne va pas contre l'objectif même de l'enseignement secondaire finalement?
En fait, l'arrivée des spécialités, j'ai envie de dire, si au début elle a été perturbante, je crois que les familles et les élèves ont compris qu'ils reconstituaient les séries qui existaient au préalable. Hein. Les élèves qui veulent faire des études scientifiques prennent des spécialités scientifiques, SVT, physique, chimie, mathématiques. Ceux qui veulent faire des études plus littéraires reconstituent de même en prenant humanité, lettres, etc. ou histoire géopolitique. Après, il y a peut-être plus de latitude et de liberté. Quelqu'un peut prendre mathématiques et humanité. La question est de savoir si ces associations sont possibles pour les études supérieures, sont judicieuses. Ça demande peut-être de savoir déjà ce qu'on veut faire assez tôt, mais c'était la même chose avec les bacs S, les bacs A, les bacs ES. Ça donnait déjà une couleur assez importante dès la première.
Le fait qu'il y ait des spécialités n'offre pas le même nombre d'heures par matière. Enfin, ce n'est pas la même répartition d'heures que pour les bacs S et L.
C'était ça déjà.
C'était ça déjà.
Moi, j'avais, en faisant un bac A à l'époque, j'avais énormément de littérature, philosophie, tandis que mes camarades qui faisaient maths, je n'avais quasiment pas de maths.
Beaucoup de personnes, beaucoup.
Non, mais après, Alors, toutes ces matières sont quand même réunies par un tronc commun. Alors, est-ce que le tronc commun est constitué de bonnes matières? Je sais qu'il a pas mal fait débat et que le cas, par exemple, des mathématiques qui n'étaient pas dedans à l'origine, qui ont été réintégrées depuis, a fait pas mal débat. Est-ce qu'il y a des matières qui sont tronc commun et qui n'y sont pas, et des matières qui ne sont pas tronc commun et qui y sont? Comment on définit un bon tronc commun?
Oh là là, mais je ne suis pas ministre de l'Éducation.
Oh, mais je ne suis même pas sûre que le ministre de l'Éducation sacherait.
Un bon tronc commun, ça dépasse ce que je peux envisager. Après, c'est vrai que si on devait faire une véritable réforme de l'éducation, il faudrait vraiment tout mettre à plat. Hein. Il n'y a pas. C'est sûr que ce serait une question importante, bien entendu.
La méthode.
Oui, le nombre d'élèves par classe. Hein, je crois qu'on est rendu à 38
oui.
cette année.
38, oui, aux alentours de 38,
c'est
oui.
ça.
Wow, mais c'est ingérable.
Assez beaucoup, surtout quand on n'a plus de table ni de chaise et que les locaux sont petits. C'est vrai, c'est beaucoup.
C'est une horreur.
J'ose même pas imaginer, nous, à l'époque, on était 23.
23 ?
Tranquille.
jusqu'à 28, 29, ça va. Après, ça commence jusqu'à 32. Alors, 38, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, beaucoup de gens. On peut décemment pas avoir une attention particulière à chaque fois pour tout le monde et non.
Alors, qu'est-ce que le nouveau bac apporte comme changement et pour les professeurs? Qu'est-ce qui change pour les professeurs depuis que le nouveau bac est en place? Depuis que la nouvelle formule est en place, qu'est-ce qui change?
Ce que j'ai entendu beaucoup là dernièrement, c'est les dates des examens des spécialités qui est très tôt dans l'année, hein, en mars, qui présente beaucoup de difficultés de préparation pour les professeurs. Ils ont du mal à préparer leurs élèves et à aborder tous les points qui vont être soumis à l'examen. Ça raccourcit d'autant l'année scolaire, puisque pendant que les professeurs, qu'ils surveillent ou qu'ils corrigent les spécialités, évidemment, ils ne peuvent pas faire cours. Donc, ça ralentit le rythme du lycée et accélère la fin de l'année. C'est ce que j'ai vu, moi, au niveau du timing, surtout.
D'une certaine façon, le changement majeur, le changement principal pour les profs, c'est plutôt, dirait-on, au niveau du planning, finalement.
Du planning, mais le planning est important. Hein. On avait voulu, semble-t-il, reconquérir le mois de juin. On est loin de là, puisqu'on a perdu une partie du mois de mars à cause des passages d'épreuves de spécialité.
Habituellement, ce n'était pas au mois de mars,
c'est
je me souviens.
C'est la première année. C'est D'accord. la première année où le timing est respecté et en fait l'idée c'est d'avoir les résultats de bac relativement tôt, ce qui a pour effet de démobiliser les élèves en plus, mais de les avoir relativement tôt pour pouvoir faire fonctionner Parcoursup.
Et nous allons faire une petite virgule musicale maintenant. Ça ne vous aura pas échappé, mais hier c'était la fête de la musique à l'occasion du solstice d'été. Donc nous allons suivre la tendance et nous allons partir outre-Bretagne pour aller écouter un Scottish joué par le Carré Manchot. A tout de suite sur Radio Alba.
Thank you.
Vous êtes bien de retour sur les ondes de Radio Alpa.
Dans Place au débat, qui aujourd'hui s'intéresse au bac, aux côtés de Coralie Vio, professeure de lettres. N'oubliez pas de réagir et d'interagir sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, vous pouvez réagir et interagir sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Radio Alpa ou sur Instagram, c'est radio-8alpa. Et nous poursuivons cette émission sur le bac en parlant du système de notation, Églantine.
En effet, le système de notation qui a été mis en place en 1890,
pardon.
Oula. Ça fait très loin, oui. Est-ce que vous pensez que c'est un concept efficace ?
Alors, j'ai peur de ne pas vraiment comprendre la question.
Pardon, je reformule.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le système, le fait de noter les élèves ?
Je vais reformuler. Pensez-vous que le système de notation que l'on connaît aujourd'hui, qui a été établi donc en 1890, est un concept efficace ?
Pensez que c'est resté le même ?
Depuis 1990, je pense que oui, c'est resté le même.
Google.
Auparavant, c'était par mention, comme au brevet.
Ah oui, d'accord, les mentions. Je vois ces dernières années fleurir aussi les couleurs dans les collèges, les couleurs ou les pastilles, même au lycée, hein, j'ai pu observer les pastilles.
Les ABC.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, je dirais que peu importe, hein, le système de notation, l'idée c'est de trouver des moyens de faire progresser les élèves. La difficulté première, c'est... Alors, les élèves sont-ils aidés par la société qui nous entoure ? Pas forcément, et dans laquelle ils sont nés. Pour progresser et pour se cultiver, apprendre, l'idée c'est d'être passionné, d'être motivé. Le système de notation pour moi est un problème annexe.
Et en français alors ?
Oh, bien sûr, en français, bon, de toute façon, hein, on est noté sur quoi en français ? Sur sa maîtrise de la langue, sa maîtrise de l'oral, sa maîtrise, bien sûr, de la littérature.
Alors, actuellement, vous êtes sur la correction des copies.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut rentrer dans la confidence de comment ça se profile ?
Oui, on a eu quelques petits mots hors antenne. Je suis dans les corrections de copies, notamment sur le commentaire, hein, sur le fameux texte de Diderot, critique d'art, qui a donné tant de fil à retordre à nos jeunes bacheliers cette année. Alors, c'est un texte très intéressant et ambitieux. Les copies, pour le moins, sont variées, hein, et laissent parfois perplexe. Le texte n'a pas été vraiment souvent compris, en fait. Donc, on s'arrache un peu les cheveux. Voilà, c'est le jeu.
Alors, pour les bacheliers et bachelières qui nous écoutent, il fallait en comprendre quoi, ce texte ?
Eh bien, nous avons Diderot qui est face à un tableau qui lui inspire des réflexions existentielles sur la vie, sur la mort, sur l'univers intime qu'il retrouve dans cette contemplation. Et le tableau devient un refuge de l'âme. Alors évidemment, c'était très complexe. Je fulmine un peu devant mes copies, mais je trouve que le sujet était vraiment de haute volée.
Et les dissertations ?
Les dissertations, alors en fonction des élèves, hein, ils ont pu avoir à travailler soit sur Manon Lescaut de l'abbé Prévost, le sujet était plutôt classique, soit sur La peau de chagrin de Balzac, où le sujet était quand même un peu plus complexe. Et le dernier sujet portait sur Colette avec Sido.
Oui, donc finalement, un retour aux grandes...
Des classiques.
Des grandes figures de la littérature.
Ouais, le nouveau programme est revenu au choix imposé et au classique. Donc les sujets de français ne sont pas bradés.
Alors, petite anecdote personnelle si je peux me permettre. Quand j'ai passé moi mon bac de français, mon oral de français, je crois que d'ailleurs un des membres du jury qui avait proposé de me mettre un demi-point en plus, rien que pour cette blague, j'avais fait une blague un peu littéraire que je vais vous partager maintenant. Voilà, j'avais dit que... Le jury que j'avais pour étudier mon épreuve était un jury sympathique et que j'étais honoré de Balzac. Voilà, c'était mignon comme blague, ouais. Disons-nous. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu.
Bah, oui, très bien.
Oui.
Alors justement, on observe par rapport à ce diplôme, Églantine, maintenant on va parler du diplôme, on observe par rapport au diplôme que souvent la sélection à l'université revêt de situations un peu absurdes. C'est-à-dire que on peut arriver à la fac en n'ayant pas du tout le niveau. Donc, je pense par exemple, je prends pour exemple des personnes qui entrent en fac de physique et qui n'ont pas fait de maths depuis 2 ans. Ou depuis 1 an, enfin, qui ont arrêté les maths et qui rentrent du coup sans le bagage de maths nécessaire en fac de physique. Est-ce que c'est pas un peu absurde ?
Ah bah oui, sûrement. Oui, c'est certainement. Ça, c'est sûr que ça paraît peu adapté. J'imagine qu'il doit y avoir des possibilités de mise à niveau.
Alors c'est vrai que les facs proposent souvent des unités d'enseignement qui sont des adaptations à l'enseignement supérieur qui sont donc là pour assurer cette mise à niveau. Mais disons que entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée, donc le delta de mise à niveau, il est quand même raisonnable, il n'est pas trop élevé, c'est une petite remise à niveau. Alors que là, on voit des gens qui quand ils n'ont pas le niveau, la remise à niveau, ça c'est plusieurs chapitres, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs chapitres, ils ont plusieurs séquences d'apprentissage qui ne sont pas acquises et où, du coup, le lieu de remise à niveau n'est clairement pas suffisante pour compenser ça. Donc, voilà. Je prends pour exemple, pour les gens à qui ça parle, je prenais l'exemple de la physique tout à l'heure. Donc là, je vais prendre un exemple un peu technique, mais pour les gens à qui ça parle, voilà, j'en appelle un peu aux matheux. Il y en a qui rentrent en fac de physique sans savoir ce qu'est un sinus ou un cosinus. Ce sont des fonctions mathématiques quand même fondamentales, surtout en physique. Donc c'est absurde. C'est un peu comme si on rentrait en fac de français, en fac de lettres, sans savoir qui c'est Victor Hugo, sans savoir qui c'est Molière, sans savoir qui c'est Shakespeare, quoi. Est-ce qu'une réforme du bac au lycée ne nécessiterait pas, du coup, une réforme aussi de l'enseignement supérieur et de l'accès à l'enseignement supérieur ?
Oui, vaste sujet, une réforme des études supérieures. Là, je dois avouer que je reste sans voix, certainement. C'est tout l'ensemble du système qui est à repenser, certainement.
Quels sont les points à améliorer que vous verriez pour améliorer l'efficacité du baccalauréat? Alors, je m'explique, c'est-à-dire l'intérêt des élèves, l'entrain qu'ils y mettent, le niveau aussi, le taux de réussite. Tout ça.
Le taux de réussite est déjà énorme, donc ça, on ne peut pas dire qu'on va y l'améliorer. C'est plutôt, les gens voient le bac comme un point d'arrivée. Le bac de français, enfin, les élèves veulent absolument avoir une note correcte à leur bac de français. Ils sont conditionnés, hein, je comprends cet aspect, les familles aussi. Néanmoins, le bac de français, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, depuis qu'ils ont 6-7 ans, le bac de français, c'est ce qui s'acquiert depuis une dizaine d'années, puisqu'ils arrivent au lycée à 16-17 ans. C'est un intérêt pour la littérature, une habitude d'écrire. C'est une curiosité intellectuelle pour la culture ou pour les auteurs. Qui ne s'acquiert pas en 6 mois. Donc, je veux dire, ce qui pourrait être amélioré, c'est l'intérêt tout entier d'une société pour la littérature, la lecture, l'écriture. Mais ça, c'est bien utopiste.
Le rêve d'un bac de français. Alors moi, j'étais un insolent à l'époque. J'étais un insolent en cours de français.
Alors, je ne me souviens pas, mais je ne crois pas que je vous ai vu vraiment en classe.
Mais non, parce que moi, je ne vous avais pas en français. Par contre, je vous avais en théâtre. Alors, en option théâtre, qui était au bac à l'époque.
Oui, l'option tout théâtre, à fait.
À l'époque, d'ailleurs, qui était, je ne sais pas si c'est toujours le cas cette année, qui était une épreuve du bac pour les terminales.
Ah oui. Eh bien, désormais, c'est en contrôle continu, au grand bonheur des élèves.
D'accord. Parce qu'il y avait une épreuve finale de tête qui était très loin d'être simple, d'ailleurs.
Ah, tout à fait. Il fallait jouer une scène. Ouais. C'était très ambitieux.
Et les jurys étaient assez sévères, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Moi, je me souviens qu'on n'avait pas un groupe de théâtre qui était si mauvais que ça.
Mais non.
Tout le monde avait un bon niveau et avait fait des dossiers honorables. Les notes dépassaient difficilement les 12. Hein. Alors que pourtant,
oui, c'est vrai que parfois, on avait été déçus par les notes.
Mais alors, moi, j'étais quelqu'un d'assez rebelle. Je disais, oui, bon, étudier des textes classiques. Si je sais lire, si je sais écrire, si je sais parler, le français, ça va, quoi. Ça, 2 minutes. Alors, c'est une réflexion de comment dirait-on ?
De jeune ?
De jeune, de jeune qui ne veut plus faire de français, sûrement, j'imagine. Est-ce que la pédagogie, quand on est prof, c'est difficile à acquérir? Parce que, par exemple, contrairement à l'université, où s'il y a un élève, un étudiant qui arrive, qui n'est pas intéressé par le cours, ou que le prof continue à faire son cours, il s'en fiche, l'étudiant peut sortir, le prof s'en fiche, ça ne le concerne pas, la présence de l'étudiant au cours. Lui, il fait son cours, voilà, pour les gens qui sont intéressés, qui sont là, et puis basta. Alors que dans le secondaire, quand on est prof, s'il y a un élève qui n'est pas intéressé, il est quand même en cours. Donc, comment on intéresse les élèves qui, à l'origine, ne sont pas intéressés par sa matière? Quelle est cette pédagogie quand on est enseignant dans le secondaire?
C'est la différence, hein, bien sûr, entre les mineurs et les majeurs. Les mineurs sont obligés de venir suivre les cours. Ils sont contraints. Évidemment, on n'a pas d'intérêt pour toutes les matières. Moi-même, au lycée, je crois que je n'ai jamais écouté quoi que ce soit en sciences ou en mathématiques. J'ai même dû me retrouver quelquefois à la porte de la classe. Je ne crois pas qu'on puisse forcer les élèves à apprendre. Après, bien entendu, la pédagogie a bien changé. On met en place différentes activités. C'est devenu quand même beaucoup plus participatif, je pense.
Mmh. Aujourd'hui, on va peut-être moins intéresser les élèves en les laissant assis devant un tableau à leur raconter
oui,
le fond
du cours. Oui, c'est peut-être moins
quoi.
Magistral. Enfin, quoi que ça doit dépendre des enseignants. C'est bien qu'il y ait aussi... des variations, des styles différents, chacun ayant sa sensibilité pédagogique. C'est ce qui fonde, je pense, la diversité.
Ok.
Mais dans ce cas, si on veut pouvoir captiver les élèves, est-ce que le programme ne devrait pas être repensé?
Ah, est-ce que c'est le programme
en français,
qui n'intéresse pas les élèves?
Oui, en français.
En français, moi je suis professeure de littérature moderne, donc c'est vrai que je suis parfois un peu déçue des choix. Parce que ça me semble toujours, depuis les années où le programme est imposé, toujours assez classique. C'est le concept qui nous est proposé désormais. C'est un peu regrettable, étant donné que nos élèves n'ont pas forcément le niveau pour étudier les classiques et qu'on pourrait les amener davantage à la passion de la lecture par des œuvres de grande qualité aussi, mais peut-être plus abordables. D'un autre côté, c'est peut-être l'occasion de toucher au patrimoine français.
Et donc le patrimoine français, y compris donc en français au lycée et au collège, n'est pas fait que de classiques.
Non, bien
mais
sûr. Il a sa fondation dans
le
patrimoine classique.
Il a une fondation classique, évidemment, mais il n'est pas que le patrimoine classique.
Mais dans ce cas, est-ce que vous seriez pour l'intégration d'œuvres plus modernes dans le programme?
Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on faisait les années précédentes.
Andromaque, par exemple?
Non, on avait étudié Laurent Godet, Eldorado. Mais... on avait étudié...
Ah, il est courant, lui.
Comment?
On le croit souvent. J'ai cru remarquer dans les établissements scolaires...
Laurent Godet?
Eldorado.
Oui, c'est très étudié, c'est très en relation aussi avec l'actualité. Donc évidemment, l'histoire des migrants, l'actualité brûlante et puis son écriture qui est d'une grande qualité font que ça a été un choix souvent fait par les enseignants. Oui, on pourrait regretter. Alors peut-être ce qu'on aurait pu faire, c'est donner plus de place, mais chacun voudrait avoir plus de place, hein, donner plus de place à la lecture, à l'écriture, au collège et en primaire. Mais voilà, j'imagine que les choix sont conditionnés. Bon, si j'étais ministre de la culture, de l'éducation, je veux dire, bien sûr,
alors, y a
on
des
ferait des journées lecture.
Il y a des suspicions de remaniement qui courent actuellement. Donc,
je vais me présenter.
Envoyer une lettre à Matignon, on ne sait jamais.
C'est ça.
Alors là, c'est la question, la question générale. C'est facile d'être prof en 2023?
C'est pas désagréable. Après, c'est facile d'être prof en 2023. Peut-être que ça l'était moins quand j'ai démarré parce que j'étais plus jeune et moins expérimentée. Je pense que c'est fonction de parcours de chacun. La difficulté là que j'ai pointée du doigt tout à l'heure, oui, c'est le nombre d'élèves. C'est quand même relativement lourd, et à la fois pour les élèves et à la fois évidemment pour les adultes. 38, 39 dans un même local, c'est quand même beaucoup. C'est un peu pesant. Mais sincèrement, je trouve pas que ce soit plus difficile, on dira... alors, il faudrait toujours avoir un élément de comparaison.
Les années précédentes.
Oui.
Voilà l'élément de comparaison.
Tu veux dire les 5 années précédentes ou les 10 années précédentes, les 20
Par exemple, depuis que vous avez commencé, est-ce que c'est plus facile ou c'était plus facile
c'est
dans les
débuts
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure,
c'était moins facile puisque j'étais débutante.
Est-ce que les parents
quand on débute, c'est plus compliqué.
Est-ce que les parents sont plus faciles, entre guillemets, à gérer? Parce qu'on entend beaucoup aussi que les parents sont une pression, parfois.
Les parents...
En général, c'est une pression pour les élèves plus que pour les professeurs,
je pense. Oui, j'ai envie de dire ça, parce que nous, les parents, on n'a pas... Enfin, on a des contacts, hein, on a quelques contacts aux réunions, etc. C'est plus des pressions pour les élèves, je pense.
Et est-ce que les élèves sont plus faciles, moins faciles, moins faciles?
Alors, oui, j'ai réfléchi à ça. C'est vrai que la relation est différente. Et chaque adulte instaure une relation avec ses groupes de jeunes. Mais la relation est plus facilement proche. Après, c'est la maîtrise de la proximité qu'il faut arriver à gérer, puisque les élèves aujourd'hui savent qu'ils ont le droit d'intervention et de dire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors, c'est cette notion-là qu'il faut les aider à gérer pour grandir et ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand.
Ouais.
Ouais.
Toute une question sur la liberté de la parole qui est à l'origine un bienfait, mais comment la cadrer dans le cadre d'un cours, quoi.
Ouais, ceci dit, moi quand j'étais élève, on ne parlait pas aux professeurs. On pensait les mêmes choses que vous, sauf qu'on ne le disait pas. Il n'y avait pas de dialogue continu ou de dialogue. On pouvait poser des questions, mais enfin...
La parole s'émancipe un petit peu. J'imagine, c'est un bienfait. Nous allons revenir dans quelques instants après une courte virgule musicale. Nous allons écouter Bridge Over Troubled Water, avec cet accent anglais magnifique, de Simon Gertunkel, avec cet accent anglais. À tout à l'heure sur Radio Alpa.
De retour sur les ondes de Radio Alpa, dans Place au Débat, qui s'intéresse au bac. En prenant pour exemple le bac de français aux côtés de Coralie Vio, professeur de lettres.
Au lycée Sainte-Croix.
Au lycée Sainte-Croix, effectivement. N'oubliez pas de réagir et d'interagir sur les réseaux sociaux.
Madame Vio, nous allons maintenant parler de la relation prof-élève.
Oui, en effet, on en parlait tout à l'heure, on y a touché un peu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, depuis vos études, que la relation élève et professeur ait évolué au point qu'on puisse discuter sur les points de vue ?
Discuter sur les points de vue, c'est-à-dire échanger plus librement ou...
Oui.
Je pense que c'est important que les jeunes puissent échanger avec leurs professeurs, qu'ils puissent justement argumenter, s'entraîner justement à parler, à prendre la parole, à développer un point de vue, à s'exprimer. Hein. La qualité orale doit être davantage sollicitée. On n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais les élèves sont assez... prennent facilement ces occasions, de plus en plus, je trouve, pour expliquer un petit peu leurs idées. C'est une bonne chose.
Alors, c'est une volonté aussi, à l'origine, mise en place par les gouvernements précédents, mais également par les chefs d'établissement, que de développer la démocratie, en fait, dans l'établissement, et donc de permettre une ouverture de la parole aux élèves, hein, c'est-à-dire y compris, en fait, qu'ils puissent plus parler aux profs, qu'ils puissent plus parler aux équipes pédagogique pour que, en somme, les décisions qui sont prises soient moins prises que du côté des profs et de l'équipe pédagogique, mais que le parler des élèves puisse être pris en compte et puisse influer, au final, sur ces décisions.
Oui, oui, l'enseignement a bien sûr échangé, a bien sûr changé, et l'objectif est bien sûr le mieux-être des apprentissages et des élèves, d'essayer de trouver des manières de rendre ces lieux ouverts et des lieux de vie pour les jeunes qui leur permettent d'être bien au lycée. Je pense qu'au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix, les élèves se sentent plutôt bien.
Alors, s'il y a des élèves de Saint-Charles-Sainte-Croix qui nous écoutent, envoyez une note de 1 à 10. Est-ce que vous vous sentez bien en cours de français?
Après, évidemment, j'ai envie de dire, c'est l'évolution de la société. Hein. Après les années 70, tout s'est libéré et tout est devenu beaucoup plus permissif. Enfin, en tout cas, beaucoup plus libéré.
Peut-être que c'est un mouvement plus global?
Oui, bien sûr. Bon, enfin, maintenant, les années 68, ça fait longtemps, mais c'est aussi la manière de considérer l'enfant, l'adolescent, qui est devenu plus au centre des apprentissages, beaucoup plus, allant même parfois dans l'excès.
On va parler, pour terminer cette émission, nous allons parler du français. Le français est une langue vivante.
Oui.
Jusque-là, on est d'accord.
D'accord.
Ce n'est pas une langue morte. Est-ce que une langue est vivante parce qu'elle privilégie l'usage à la règle?
La règle change en fonction de l'usage, on l'a vu à travers les siècles, évidemment. Pour qu'il y ait évolution, c'est la langue. Vous voulez dire que les changements, les libertés prises par rapport à la langue?
Je prends l'exemple, par exemple, de l'Académie française.
Ah.
Les fameux...
Il faut une Académie française pour conserver la langue.
Les fameux immortels, comme on les appelle. Alors, si je prends un exemple bien connu sur leur site internet, voilà une section qui s'appelle « Dire, ne pas dire », qui est donc vue comme une injonction de ce qu'on doit dire et de ce qu'on ne doit pas dire dans la langue, alors qu'un mot, habituellement, dans une langue vivante, rentre dans la langue parce que l'usage fait qu'il y rentre et qu'il y reste. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu has-been à venir réguler la langue de manière aussi drastique?
Mais de toute façon, pour qu'il y ait libération, il faut qu'il y ait une règle, il faut des conservateurs. Évidemment que les conservateurs sont là pour conserver la langue, la langue classique, et bien sûr que ce n'est pas leur rôle de la faire... ce n'est pas leur rôle de l'enrichir. Ils prennent les enrichissements qui naissent au fur et à mesure de l'emploi de la langue. Et bien sûr, on a quand même pas mal de termes qui rentrent régulièrement dans le dictionnaire. La jeunesse fait toujours évoluer les langues. Mais si on prend chaque génération, il y a aussi beaucoup de choses qui ont
qui ont été oubliées hein, dans la langue des jeunes, des choses qu'on disait il y a 30 ou 40 ans qui n'existent presque plus. Et puis, je pense qu'il faut quand même distinguer vraiment la langue écrite et la langue parlée, et la langue des examens et la langue qu'on emploie entre soi à l'écrit. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de langues différentes.
Oui, donc la langue, le français écrit est une langue, dirait-on, plus...
Académique.
Plus académique, peut-être un peu plus fondée sur la règle, peut-être un peu moins fondée sur l'usage. Alors qu'au contraire, la langue parlée est un peu plus fondée sur l'usage, un peu plus relâchée, un peu moins, peut-être un petit peu moins exigeante d'une certaine façon.
Relâchée, plus... oui, bien sûr, on ne va pas parler comme dans un livre toute la journée. Mais enfin, quand vous voulez envoyer une petite lettre de motivation ou je ne sais quoi, toujours un peu pratique de maîtriser la langue académique.
Ça fait plus littéraire, plus intelligent.
Bah, et ça fait un peu plus,
ça
vous voyez,
fait, ça démarque
vous
aussi.
Ça. Ouais. Oui, bah, ça démarque les lettres de motivation qu'on reçoit, soit elles sont mal orthographiées avec une syntaxe bancale, ça fait toujours un effet, un mauvais effet.
La langue aurait-elle un côté élitiste?
Bah, elle trie, évidemment, hein. Moi, quand je reçois des courriers de part et d'autre, pour des choses même modiques, que ce soit des annonces, etc., et qu'on m'écrit dans une langue à peine compréhensible, je ne réponds même pas, en fait. J'estime que je ne vais pas répondre à des phrases qui sont presque pas... Enfin, il n'y a pas de forme, il n'y a rien, c'est... Non, je ne réponds pas.
Alors, si je peux me permettre, dans le dernier mail que je vous ai envoyé, j'ai fait une faute d'orthographe, je m'en suis rendu compte après...
Oui, mais enfin, l'ensemble était quand même formulé. Il y avait à la fois des formules de politesse, des vraies phrases. Une faute ne fait pas... voilà, c'est pas très grave, une faute.
Mais alors justement, là, je pense aux personnes qui ont, des troubles qui ont une influence sur la langue, comme par exemple la dyslexie, la dysorthographie... voire qui ont dans le cerveau, qui ont une lésion dans une aire du cerveau qu'on appelle l'aire de Broca, qui est une aire liée au langage. Est-ce que ces gens qui ont handicap, hein, finalement, est-ce que ces gens, la langue les discrimine, les sélectionne de manière aussi triviale, ou est-ce qu'on a une forme de tolérance?
Je pense qu'en vérité, quand on a un handicap et qu'on veut obtenir quelque chose, on se fait aider. Je ne sais pas si j'ai un handicap, mais que je veux écrire une lettre alors que je ne suis pas naturellement capable de l'écrire moi-même, je me fais aider, évidemment.
Si, des gens veulent bien nous aider. c'est une question qui relève plus de l'humain.
Petite question avant de finir. Donc, vous êtes jury de remplacement, entre parenthèses, je ne sais plus comment on dit.
Oui, pour l'oral.
Les élèves présentent une œuvre qu'ils choisissent.
C'est ça.
En général, qu'ils aiment.
Les choix d'œuvres sont de plus en plus larges, puisque finalement, les élèves peuvent proposer à leur professeur une œuvre qu'ils ont choisie, qui n'est pas forcément au départ dans la liste du prof. Bon, néanmoins, voilà, il y a quand même un accord à donner de la part du professeur. Mais oui, normalement, c'est le concept.
Est-ce que c'est possible aussi qu'un élève choisisse de présenter un livre qu'il n'a pas aimé?
Mais oui, malheureusement, certains se penchent très peu sur la question, donc ils ne jouent pas tellement le jeu, donc ils font un petit peu semblant d'avoir aimé. Bon, bah, évidemment, ça fausse l'exercice, hein, je ne vous le conseille pas.
Et s'il devait présenter le livre et qu'il devait ne pas jouer le jeu et justement montrer aux jurys qu'ils n'ont pas aimé le livre et argumenter contre le livre.
Ce n'est pas l'exercice proposé, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi l'élève ferait ça, parce qu'il a mal compris la consigne. Donc, il viendrait présenter pour dire qu'il n'a pas aimé Madame Bovary. Ça, ce ne serait pas l'épreuve.
Ce ne serait pas l'épreuve, mais est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui peut déjà démarquer l'élève et...
Ah oui, mais enfin, je ne sais pas si ça va le démarquer d'une manière très... très positive. Je ne vois pas trop l'intérêt de venir. En plus, ce sont souvent quand même des livres reconnus, d'être un élève et de venir critiquer une œuvre. C'est pas vrai. C'est vraiment pas ce qu'on attend et c'est malvenu quand même.
À la limite, faudrait
peut-être
dire...
un bémol sur une œuvre, mais critiquer...
Dans l'idée, faudrait dire plutôt si ce livre-là ne m'a pas plu, c'est pour ces raisons, c'est pour telle ou telle raison. Là, contrairement à ce livre-là, qui montre que, au contraire, il va dans le sens
inverse. Ouais, sauf que là, l'idée, c'est de présenter une seule œuvre. C'est pas l'esprit du... Vous savez, c'est uniquement... enfin, cette partie de l'épreuve, hein, c'est 3 minutes d'intervention de l'élève, 5 minutes de discussion avec son jury. Je pense qu'il vaut mieux en rester aux attendus.
Oui. Inutile de se prendre la tête d'une certaine
façon. Voilà, oui. Je pense qu'il y a tellement de livres passionnants à présenter.
Est-ce que, avant de se quitter, est-ce que vous avez un mot de la fin ?
Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous, pour ceux qui sont à la veille de leur oral, un bon courage et de passer le meilleur bac possible. Bon courage à tous.
Eh bien, bon bac à tous et bon été.
On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Et puis, en attendant, bonne chance aux premières et aux terminales et gardez la pêche.
Et la semaine prochaine, nous ferons des entretiens épistémiques. Donc, soyez au rendez-vous, car c'est un événement dans Place au débat. Allez, à la semaine prochaine, salut.
On touche pas,
quelle indignité.
Églantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est, celle-là ? Qu'est-ce que c'est ?
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre ?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux. Merci.